c'est Maurice.
Bonjour et bienvenue à Scal 16-17 avec Fulgence Blau au micro. Voilà, c'est la dernière de la semaine. Tout de suite, en première partie d'émission, juste après mon... Après avoir planté le décor de l'émission, je vais recevoir Aïda Kamar qui va nous parler de... Voilà, la 12e édition de Muse 2022. C'est, voilà, 12e édition. Présidente, directrice générale et cofondatrice de Vision Diversité qui est derrière tout ça. Et à 16h15, je vais recevoir Olivier Perret, qui est parrain de C'est moi le chef, chef exécutif du Renoir Sofitel Montréal. Deuxième édition, C'est moi le chef. Très intéressant. Et en deuxième partie d'émission, c'est-à-dire 7h30, mon chroniqueur de comic book, Christian Lacasse, qui va nous parler des 30 ans d'existence de la maison d'édition Image Comics. C'est bien ça. Et puis bon, si j'ai encore des minutes, je parlerai d'autres activités qui auront lieu demain, c'est-à-dire samedi, quoi, aujourd'hui et demain, tout ça. Mais tout de suite, sans perdre de temps, Aïda, la présidente, directrice générale et cofondatrice de Vision Diversité, qui est déjà au bout du fil. Bonjour Aïda Kamar.
Bonjour à tous.
Alors, où on en est? Ça a commencé depuis le 6, là. Comment ça se passe?
Écoutez,
l'événement?
Muse a commencé hier. C'était magnifique parce qu'on a retrouvé une fidélité du public à laquelle on tient tellement,
oui,
mais aussi une fidélité des partenaires qui, eux, sont au rendez-vous depuis 12 ans.
Oui.
Et le plus important, c'est que ça nous a permis de vivre hier déjà 5 voyages absolument fabuleux dans les univers très, très différents des artistes qui étaient programmés pour la soirée du jeudi.
Oui.
Et ça continue ce soir avec 6 autres groupes, demain avec 5 autres, bref. Il y aura 16 groupes en 3 soirées, plus la soirée de clôture qui va mettre de l'avant les 2 dernières révélations 2021 et 2022, Révélation Radio-Canada en musique métissée. Et il faut le mentionner, les 2 ont fait leur premier pas sur la scène de Muse il y a quelque temps, l'année passée, il y a 3 ans pour chacune d'elles.
Wow. Alors, je ne sais pas, ce que vous avez fait durant la période de pandémie, je ne sais pas s'il y a eu des événements virtuels. Et
oui,
vous en avez eu?
Oui. Écoutez, finalement, peut-être que la période de pandémie, à part les 3 premières semaines de mars dans lesquelles on était sonnés et qu'on se posait la question, on fait quoi et comment?
Oui.
Mais très, très rapidement, on a réalisé combien les artistes étaient dans un mauvais état. Et que pour eux, il ne suffisait pas de leur envoyer un chèque pour qu'ils puissent payer leurs factures, et qu'ils avaient vraiment besoin de retrouver leur musique, leur créativité. Et c'est là qu'on a carrément, on est parti dans de l'improvisation de projets qui se faisaient de maison en maison, de façon virtuelle. Ils ont composé des chansons à distance ensemble et se les envoyer par courriel. C'était fabuleux comme expérience. On est passé à plusieurs autres étapes et je crois que c'était une des périodes les plus intenses et surtout les plus intéressantes parce qu'elle nous a réellement menés ailleurs à une autre dimension qui ne remplacera jamais certainement la scène vivante, mais qui pourra être très, très complémentaire parce qu'elle permet de rayonner vers de nouveaux publics qui parfois ne sont pas présents à Montréal parce qu'ils sont hors Montréal ou parfois carrément hors pays.
Carrément à l'international, quoi, oui.
Oui, absolument, absolument. Ça élargit le rayonnement des artistes. Or, nous sommes tous là pour eux.
D'accord. Avant de continuer avec cette 12e édition, mais Vision Diversité, c'est quoi? Pour celui qui nous écoute, Vision Diversité, c'est quoi? Voilà.
Comme le nom l'indique, déjà, c'est pas pour faire sexy qu'on s'est appelé Vision
Diversité. Ah non, j'ai pas du tout pensé.
Ça ne fait pas sexy, au contraire, ça fait optique. Ça fait vision opticien.
Oui.
Mais on voulait absolument, après avoir beaucoup travaillé sur le terrain à Montréal, je me suis rendu compte qu'on était en train de se confiner dans du communautarisme, dans une folklorisation de ces apports et de ces cultures qui étaient excessivement riches, à condition qu'elles s'enracinent dans une culture commune à nous tous, qu'elles prennent leur place là où elles doivent prendre leur place, donc au cœur de la scène québécoise, et non pas en marge. Et donc, on s'est dit, il faut vraiment apporter une autre vision de la diversité, d'où le nom Vision Diversité. Et cette autre vision de la diversité veut que notre diversité, dans toutes ses expressions, parce qu'elles sont très, très riches, c'est comme si on était dans des pots et que tant qu'on est dans le pot, les racines ne s'épanouissent pas. Or, s'il faut casser les pots, il faut protéger les racines. Et pour les protéger, il faut les prendre du pot et les transplanter dans le terreau. Mmh. Et ce terreau musical, il est riche, il est intéressant, parce qu'elles peuvent se nourrir du terreau et nourrir le terreau. Et là, ça peut sembler très conceptuel comme façon de voir. Or, au quotidien, depuis 16 ans qu'existe Vision Diversité, nous expérimentons la chose. Les plus belles réussites sont lorsque les artistes ne se confinent pas uniquement dans une musique traditionnelle de pays d'origine nostalgique. Il faut garder les musiques traditionnelles. Tout le monde n'a pas besoin de faire du changement de tradition. Mais lorsque ces traditions sont jouées ici, à Montréal, par des artistes montréalais, québécois, qui se nourrissent aussi de ce qu'il y a autour d'eux, ce n'est plus la même chose. Il y a une autre dynamique de créativité qui se bâtit, et c'est ça que nous appelons métissés au lieu de les appeler musique du monde. On garde le terme de musique du monde lorsque des artistes d'ailleurs viennent porter vers nous à travers des concerts lorsqu'ils sont en tournée. Oui, ça c'est de la musique du monde. Mais lorsque les gens sont d'ici, de quel monde est-ce qu'il s'agit? On parle de Québécois, qu'ils soient arrivés il y a 400 ans ou il y a 400 jours.
Oui, c'est vrai, effectivement, j'aime pas trop ce terme musique du monde, au fait, personnellement, j'aime pas trop ça.
Diversité, voilà. Ça ne veut plus rien dire,
Ça passe son sens d'être, quoi.
Bon, alors, Vision Diversité, depuis 16 ans, a une programmation à l'année longue, de septembre jusqu'au mois de juin, qui tous les mois, avec plusieurs salles partenaires, alors tantôt c'est à la Place des Arts, tantôt c'est à l'Astral devenu Studio TD, beaucoup au Théâtre Outremont qui est un de nos partenaires majeurs, nous avons tous les mois justement des spectacles qui viennent mettre de l'avant la richesse et la force de ce courant, parce que c'est en train de devenir un courant de musique métissée, en présentant l'un ou l'autre de ces artistes. Une fois là, on a ce gros événement qui est Muse et qui dure 4 soirées. Ce sont les soirées actuelles, depuis hier et jusqu'à dimanche soir, et qui sont ouverts au grand public pour qu'ils viennent découvrir tous les soirs 5-6 groupes et faire des voyages musicaux et réaliser combien la scène musicale des musiques métissées est riche à Montréal actuellement.
Oui, oui, mais selon les informations que j'ai d'ailleurs, Muse, c'est Vive Muse, c'est partagé à travers des soirées inoubliables, des magnifiques clichés de ce courant de musique métissée, c'est bien ça, on préfère ça que des musiques du monde, qui grandit et occupe un espace considérable de notre scène musicale québécoise à travers la diversité des talents et de tous les artistes qui en sont porteurs. Ça, c'est beau, ça.
Totalement. À partir du moment où on regarde ce qui est en train de se passer, on peut faire le rapprochement avec l'évolution du jazz. Mmh. Le jazz aussi a commencé il y a une cinquantaine d'années dans des bas-fonds, dans des bars, dans des trucs communautaires, etc., pour dire ce mal, ce blues de l'âme quelque part. Oui. Et puis, depuis quelques années, depuis une quinzaine d'années, de la même façon, ça a commencé d'abord justement dans des salles bien particulières ou communautaires ou dans les beaux bars, les balatous qui ont fait un travail immense, mais dans des salles spécifiques avec un public spécifique. Oui. Ce que nous voulons faire, c'est qu'à côté de ceci, il y ait un lieu dans lequel se passent les grands moments musicaux et où ces artistes-là viennent prendre leur place parce qu'ils méritent, en tant que professionnels, de prendre leur place au cœur de l'industrie de la musique québécoise et dans les plus grandes salles de cette industrie.
C'est ça. D'ailleurs, je m'apprête à vous poser la question, Aïda, c'est dû au fait de vous avez remarqué un manque dans ce domaine qu'en 2006, vous et votre complice Pamela, vous avez pris la décision de mettre sur pied cet organisme Diversité.
On a constaté une très grande richesse, mais on a constaté une très très grande marginalité.
Oui.
C'est-à-dire, on voyait qu'il y avait un potentiel énorme, mais que ça restait confiné dans des lieux spécifiques avec des publics spécifiques. Oui. Et par conséquent, les artistes qui devenaient de plus en plus professionnels, parce que ça a été aussi des artistes porteurs de traditions orales à partir de chez eux, de leur culture d'origine. C'était un peu de la musique nostalgie. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, non, ce n'est plus ça du tout.
C'était pour sortir, comme vous l'avez dit au début de cette... Aïda, c'était pour sortir, comme vous l'avez dit au début, de cette ghettoisation.
Absolument, absolument. Il y avait une sorte de ghettoisation, c'est certain. Mmh. Et on participait à la ghettoisation non publique.
Oui.
Vous voyez.
Oui.
Ensuite, il y a autre chose aussi, c'est que dans les salles où ces gens-là passaient, c'était des bars ou des salles à ambiance de bar. Et je m'explique. Ce n'est pas la même chose que d'être dans une salle où on vient pour boire, bavarder, rigoler et de temps en temps écouter de la musique comme musique de fond,
oui.
ou quand on vient pour entendre dans tout le respect de leur créativité
oui.
ces artistes-là. Ormuz est, est une salle d'écoute. Bien sûr, on prend un verre. Bien sûr, entre un groupe et l'autre, on échange.
On échange avec des voisins, oui.
Mais, le cœur de l'événement reste l'artiste à qui nous avons délibérément choisi d'offrir les plus hauts niveaux techniques possibles.
Oui.
Parce que n'oublions pas que ce sont des instruments souvent particuliers, ce sont des rythmes particuliers. Et donc l'équipe technique de sonorisation n'est pas la même que lorsqu'on fait un concert de musique pop ou de rock, c'est pas la même chose. Or, nous avons développé autour de nous une direction technique qui nous suit depuis les dernières 16 années, qui fait tous nos événements et qui s'est habituée à respecter le son qui est en train de lui être donné, qui n'est pas du tout le même que lorsqu'on est dans des concerts d'une autre nature musicale.
Voilà. Et puis vous, avec vous, Aïda, vous, avec vos 25 ans d'implication dans les divers milieux de la culture et de l'éducation à Montréal, c'est un atout.
Oui, c'est certainement, parce qu'en fait, je les connaissais bien, parce que c'est un réseau dans lequel je suis aujourd'hui depuis 30 ans.
Oui.
Donc c'est du monde que j'ai côtoyé, frayé. Avec tout ça, vous savez, les premières années, donc depuis nos 16 ans, les premières années ont eu leur lot de difficultés. Il a fallu se battre. Il a fallu accepter de faire des concessions. Il a fallu bâtir l'édifice pierre par pierre. Donc je comprends lorsque ces artistes-là qui sont seuls, dépouillés, qui n'ont pas de réseau, arrivent et veulent faire leur place, combien c'est difficile.
Oui.
Mais d'un autre côté, honnêtement, il faut le reconnaître, au cours des dernières années, l'accompagnement des institutions officielles,
oui.
je pense au CAM, au CALC, au CAC, à tous ces conseils des arts, dont le mandat à Musique Action, qui en fait beaucoup actuellement.
Oui.
Ils ont beaucoup tous évolué. Ce n'est plus pour eux un truc marginal de la diversité. D'ailleurs, un mot diversité qui ne veut plus dire grand-chose, parce qu'il y a de sortes de diversité.
Oui.
Pour nous, nous avons adopté, nous ne sommes pas dans la diversité ethno-ethnique.
Oui.
Nous ne sommes pas en train de cataloguer les artistes par origine. Ils apportent des expressions artistiques et c'est elles qui sont portées. C'est la diversité de leurs expressions. Maintenant, évidemment, ils ont leur culture, elle les nourrit, elle les enrichit, mais à la base, il y a leur talent et le domaine de créativité dans lequel ils ont choisi d'évoluer.
Et d'ailleurs, comme dit l'un autre, la musique, c'est un langage universel.
Absolument.
Qu'on comprenne les paroles ou pas, l'essentiel est qu'il y ait l'émotion.
Ce que j'aimerais souligner dans Muse, je l'ai vu encore hier. Vous savez, après avoir été privé pendant presque 3 ans de spectacles réels, le public vient avec une soif de partager en réel des artistes sur scène. Les gens hier de la salle étaient bondés, les gens étaient heureux, on les sentait heureux. On sentait qu'il y avait une complicité qu'on est en train de retrouver et qui est nettement supérieure à celle qu'il y avait avant la pandémie.
Mmh.
Comme s'ils appréciaient quelque chose qu'ils avaient perdu,
oui.
et qu'ils avaient vraiment le goût d'être là. Et puis tout le monde nous a parlé évidemment de ces fabuleux. Vous savez, lorsque vous offrez 6 moments de 20 minutes dans des univers très très différents, ça permet à ceux qui ne sont pas connaisseurs de musique métissée, ce n'est pas un spectacle complet de musique brésilienne ou de musique africaine ou de musique jazz. Mmh. C'est des moments privilégiés.
Des moments privilégiés.
On va aller découvrir l'univers complètement différent.
Mmh. Alors pour la dernière minute qui nous reste, quel est le message que vous passez à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore fait le déplacement depuis hier, ben vous êtes là, c'est jusqu'au 9, c'est jusqu'au dimanche.
Voilà. Quelque soit ce que je dirais, venez, venez d'ici dimanche soir, tous les soirs. Le prix symbolique est important, c'est à 10 dollars uniquement.
Mmh.
On l'a fait symbolique pour que tout le monde puisse y avoir accès.
Oui. Oui, et puis non seulement ça finit, il y a encore aujourd'hui c'est le 7, il y a encore le 8, le 9. Voilà, aujourd'hui, demain et après-demain. Alors, c'est l'adresse de TD, c'est
je pense. Alors le TD, c'est l'ancienne Astral qui est au 305 Sainte-Catherine Ouest, donc juste au coin de Bleury.
Oui. Merci beaucoup Aïda Karma.
Merci à vous.
Et puis
à bientôt.
Au plaisir de vous réentendre avec d'autres projets, hein.
Merci beaucoup, on est là.
Merci, allez, bon festival.
Merci.
Bon Muse. Merci. Au revoir. Thank you. Voilà, c'était Aïda Karma, la présidente, cofondatrice, directrice générale de Vision Diversité, qui vient de nous parler de cette 12e édition de Muse, voilà, 2022. Voilà, maintenant qui est avec nous au téléphone, c'est Olivier Perret, chef exécutif du Renoir Sofitel Montréal et parrain de C'est moi le chef. C'est la raison pour laquelle on l'a invité. C'est moi le chef, c'est la 2e édition. Voilà. C'est pas moi, Fulgent. C'est pas moi, en tout cas. C'est pas moi le chef. C'est le titre de l'événement. Depuis le 1er octobre jusqu'au 16. Bonjour, Olivier Perret. Comment vous allez?
Bonjour, bonjour, Olivier. Oui, chef du Sofitel Montréal.
Oui.
Chef du restaurant Renoir.
Oui.
Merci de me recevoir à votre émission.
Ah oui, et puis merci d'avoir le temps de venir nous voir. J'ai dit, mais les chefs, ils n'ont jamais le temps. Ils sont tout le temps en train de courir après les recettes, qu'est-ce que le client doit manger ce soir, ou bien toute la journée, ils sont en train de parcourir les différents marchés, les différents stands. Alors, pour cette deuxième émission, voilà, comment est-ce que vous avez accepté d'être parrain? Quand ils vous ont approché?
Ben en fait, moi, j'ai rencontré Karine il y a en 2017, donc il y a quelques années déjà, et quand elle m'a parlé de son projet, c'est moi le chef, donc pour pouvoir apprendre à cuisiner un peu mieux aux enfants, aux gens en général, j'ai trouvé ça très chouette, et j'ai dit ok, on y va, et on a lancé, enfin, Karine a lancé ça en 2017 avec mon léger support, on a pu, et je pense qu'on a pu faire des beaux ateliers à travers le temps, surtout au début, avant la Covid. Où on faisait des ateliers sur le marché Jean Talon, on a pu partager des beaux moments de cuisine avec les enfants et leurs parents. Et moi, Karine, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et c'est important pour moi de l'aider dans sa mission. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup aussi les enfants, cuisiner avec les enfants. J'ai moi-même deux enfants et j'ai toujours plaisir à cuisiner avec eux. Donc c'était un beau projet pour moi qui était simple à faire.
Oui, oui. Et puis, je vous le dis, Olivier, sincèrement, quand elle parle de ça, de cet événement d'ailleurs, Karine, elle dit, c'est ma rencontre avec Olivier Perret, chef exécutif du Renoir Sofitel Montréal, en mai 2016, qui m'a donné la petite tape dans le dos qu'il fallait pour m'inciter à sauter, à faire le pas. Vous voyez, quand vous parlez de...
C'est important. Quand on a un peu de... quand on est dans nous, j'ai la chance de travailler dans un bel hôtel et d'avoir une belle structure, donc c'est important pour moi de pouvoir partager puis de faire des choses, des belles choses comme ça.
Oui, oui, oui. Alors expliquez un peu à nos auditeurs là comment ça se passe là, ces rencontres avec ces jeunes gens, et tout est virtuel paraît-il. Bon, ça a commencé d'abord par cette histoire qui a commencé par le marché Jean Talon.
Exactement. Donc, on cuisine. En fait, on faisait des ateliers avec des chefs de Montréal et des environs. De quelques heures, on partageait des recettes avec des jeunes enfants et leurs parents.
Oui.
Lieu magnifique sur le marché. Là, cette belle salle qui est au-dessus, et la mandoline qui est au-dessus du marché. Donc, les produits sont directement les produits directement sur le marché. Donc, on fait un petit tour.
Tout frais.
Leur montrer ce que c'était, un beau poivron ou un navet, ou enfin leur faire découvrir aussi un petit peu. Ce que sont les légumes et d'où ils viennent. Et ensuite, on allait cuisiner sur la salle, la mandoline, ensemble. Ensuite à ça, bon, bien sûr, il y a eu la Covid qui est arrivée. Donc, Karine a dû se réorganiser et faire ses ateliers en virtuel. Et elle a eu le courage et l'audace de construire ça et de réussir, parce que maintenant je pense qu'elle a des ateliers à travers tout le Québec, même à travers le Canada pour les francophones, donc c'est assez impressionnant, ça a porté fruit.
Oui.
Et je pense qu'aujourd'hui, bon, les ateliers sont virtuels, je pense qu'elle invite beaucoup de chefs de différentes cultures, ce qui est intéressant. Je vois là sur la programmation, dimanche 9, la chef Abenakis, Liziane Ombon-Zawin, je m'excuse pour la prononciation du nom, de famille autochtone, donc c'est chouette. Donc ça fait découvrir aussi une nouvelle culture, s'ouvrir au monde, avoir envie de voyager, cuisiner de nouveaux produits, voyager un petit peu comme ça à travers la cuisine. C'est un peu ça, nous, la cuisine, c'est voyager à travers... on reçoit aussi beaucoup de chefs ici, et souvent on passe des beaux moments à partager comme ça de nouvelles recettes.
Ah oui, et cette année, c'est comment dirais-je, les cuisines thématiques, c'est mettant à l'honneur les chefs de recettes de culture de trois destinations gourmandes qui sont le Québec, l'Autochtone, l'Italie et le Mexique. Comment les choix ont été faits, Olivier?
Ça, c'est Karine qui a fait ces choix-là, mais je pense qu'elle a essayé de voir un petit peu, de pouvoir découvrir un petit peu aussi ce qu'on trouve au Québec. Je pense que c'est quand même une cuisine qu'on connaît, le Mexique, l'Italie, Bah, c'est quand même des régions qui nous intéressent, qui nous interpellent. On pense souvent d'aller en vacances au Mexique. Quand on peut, si on peut y aller, c'est bien.
Oui.
L'Italie, c'est pareil, c'est assez proche. On a quand même une grosse communauté italienne au Québec. Donc, je pense que c'est des produits qui touchent ou des cuisines qui touchent un peu les gens d'ici. Et, bon, c'est aussi des choses qu'on retrouve à travers les magazines ou la télévision ici qui sont assez abordables et qui nous donnent envie de voyager.
Et comment ça se passe, les inscriptions? Est-ce que c'est les enfants eux-mêmes ou bien c'est les parents qui appellent, qui inscrivent leurs enfants?
Alors, les inscriptions, ça, c'est une bonne question. Mais je pense que Karine pourrait vous en dire plus. Mais je pense que tout est en ligne. Donc, les parents, en général, inscrivent leurs enfants pour ça.
Oui.
C'est gratuit, en plus, sur Facebook. Donc, ça, c'est assez extraordinaire.
Oui.
Ouvert à tous, accessible à tous. Donc, c'est... Je pense qu'il n'y a, bah, a, a pas plus facile, non? Je pense que c'est juste d'aller sur le lien « C'est moi le chef » et de s'inscrire pour un programme ou pour un atelier. Et, ça.
Oui.
Et voilà, le tour est joué. Mais je pense que c'est quand même mieux de le faire avec ses parents pour être sûr peut-être de choisir le bon atelier qui plaira à tout le monde.
C'est ça. Et puis il y a tout là-bas comme ça. Il y a des jeux, il y a des concours, il y a des anecdotes et puis des trousses. Voilà, avec des Exactement. Cadeaux disponibles en ligne durant le festival, quoi. Cette deuxième édition, j'espère que ça va grandir, comme tous les autres festivals qui ont commencé comme ça aussi. Première édition, deuxième édition et puis une suite, quoi. Donc j'ai dit, mais
Exactement.
Moi, voilà. Et puis voilà, allez-y, Olivier.
En tout cas, comme j'ai dit à Karine, moi je suis parrain et quand je m'engage sur les choses, bah, c'est jusqu'au bout. Donc nous, l'idée c'est que ça continue. Et comme je lui dis, quand tu as besoin de moi pour intervenir ou même refaire des ateliers un peu plus en réel sur le marché ou ailleurs, on sera présent et on sera toujours là pour encourager ces très belles initiatives d'apprendre aux enfants de cuisiner, de développer leur curiosité, de rêver, puis de penser à de voir différemment.
Oui.
C'est nécessaire, je pense, aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est très, très axé sur nos téléphones, ce qui est un peu plus virtuel, mais les choses basiques comme manger, lire, écrire, tout ça, je pense que c'est quand même des choses qu'il faut continuer de s'entraîner, de travailler tous les jours. Je pense.
De toute façon, on ne pourra jamais manger virtuel, il faut toujours avoir le plat devant soi.
Exactement.
Voilà.
Je l'espère pas.
Je suis un fervent
adepte du goût, donc je pense qu'il faut garder le goût. Et si on peut garder encore les chefs en cuisine, ce serait pas mal, ouais.
Oui. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, Olivier Danza, c'est le concours chef d'un jour, qui a été lancé à du festival. D'ailleurs, le gagnant va co-animer l'atelier surprise du festival. C'est moi le chef.
C'est chouette, hein.
C'est très chouette, c'est très intéressant.
Non, c'est bien. Non, je pense que Karine a pensé à tout. Je pense qu'elle a un très beau programme, très beau concours, toujours des belles initiatives. Je pense que c'est pas prêt d'être terminé, tout ça.
Oui.
J'encourage des gens à s'inscrire et à participer et à découvrir le festival et la cuisine du monde.
Oui, et d'aller vivre le gagnant et d'aller vivre cette expérience mémorable en famille à l'hôtel Sofitel chez vous.
En
là.
Plus, oui, c'est vrai. Oui, on a offert ça, c'est vrai. Ça nous fait bien plaisir ça va être super de les accueillir et puis de leur montrer la cuisine, si on a le temps de cuisiner un peu ensemble, ils sont en cuisine, ça va être super. Donc ça va être encore des beaux moments de partage. Ouais, mais c'est un plaisir de pouvoir offrir ça puis de faire rêver un petit peu les gens. C'est notre métier.
Oui. Comment vous voyez l'avenir de ce festival? Vous pensez que les enfants sont vraiment intéressés à prendre?
Ouais, mais je pense que c'est bien. Moi, j'aime le côté virtuel, c'est sûr que c'est chouette parce que du coup, Karine arrive à rejoindre beaucoup de monde à travers le Québec.
Oui.
Donc ça, c'est toucher un maximum de personnes. C'est vrai que quand on le faisait sur le marché, on était plus dans un petit groupe, on était plus sur la région, on va dire sur le quartier de Montréal. Mais là, du fait qu'elle arrive à se développer à travers le monde, je pense qu'il n'y a pas de limite. Elle peut développer ça et continuer de progresser, et peut-être au travers du Québec, l'Amérique du Nord.
Même à l'international.
Exactement. Avec le virtuel, il n'y a pas de limite si ce n'est bien sûr la planète Terre.
Le virus nous l'a imposé, on ne peut plus s'en séparer.
Ouais, exactement. Moi, dans mon métier aussi, je fais beaucoup, je suis sur beaucoup d'associations, donc la plupart des meetings aujourd'hui se font en virtuel. On a pris l'habitude et retourne en arrière sur ces choses-là, non. Et si Karine, avec ce méthode, peut rentrer dans les cuisines, un maximum de cuisines à travers le Québec et surtout chez monsieur et madame tout le monde et toucher Ça, c'est chouette. Moi, je pense que c'est. Y a pas, on espère, en tout cas, l'espoir, et que ça continue de grandir. Oui.
C'est une manière modeste à nous, ici, à Canal M, de faire la promo de cet événement qui a sa deuxième édition. Et puis, pour les enfants, surtout que, avec la société dans laquelle on vit, les gens mangent beaucoup plus de fast-food que de repas à la maison. Ben. Pour apprendre d'apprendre à la nouvelle génération de se mettre à la cuisine, de pouvoir apprécier le goût, le pouvoir de cuisiner, de bien manger et de manger moins cher. Parce que quand on mange à la maison...
Oui, exactement. Voilà. D'aller sur le marché, d'aller chercher des légumes, des fruits, il y a des bons fournisseurs, des bons producteurs au Québec. Des fruits et légumes aussi. Donc, faire découvrir ça aux jeunes, maman, c'est bien. Ça apprendre à faire une soupe, une purée... sauter de légumes, ces choses-là, je pense que avec les ateliers, ça peut que aider les jeunes à mieux comprendre la cuisine et à mieux se nourrir.
Est-ce que vous, en tant que chef, Olivier, est-ce que vous pouvez dire que la cuisine, c'est un jeu d'enfant?
Quand on a un cœur d'enfant. si on a un cœur d'enfant, je pense qu'on a, ça reste un jeu d'enfant. Enfin, moi, ça a toujours été, j'ai découvert la cuisine avec ma grand-mère tout jeune, quand j'avais une dizaine d'années, et ça a toujours été un milieu très facile pour moi. Ouais. J'ai toujours été, j'ai eu la chance de trouver un travail où même malgré les heures et les défis, je suis heureux, je pense. C'est ça le bon. On est dans un endroit où on vit un peu sa passion. Il y a toujours à manger, il fait chaud, une cuisine c'est bien. Surtout au Québec, on est mieux dans une cuisine que de travailler sur un chantier extérieur.
Ça, c'est le chef devant sa chapelle. Alors,
il y a beaucoup d'avant.
Merci beaucoup, Olivier Perret, parrain de ce festival. C'est moi le chef. Merci beaucoup et bon festival.
Avec plaisir. Voilà. Merci à vous.
Au plaisir de vous réentendre pour d'autres ateliers ou bien d'autres événements.
À très bientôt. Au revoir.
Merci à vous.
Au revoir.
À l'écoute après la petite pause publicitaire, c'est Christian Lacasse qui vient nous parler de quoi? Des 30 ans d'existence de la maison d'édition Image Comics. Allez, à tout de suite.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
C'est la deuxième demi-heure de l'émission et puis c'est la dernière de la semaine. En même temps, Christian Lacasse avec moi en studio. Il n'est pas au bout du fil.
Non. Live avec Monsieur Fulgence, ça fait toujours un plaisir.
Les 30 ans d'existence de la maison d'édition Image Comics. Christian, bonjour d'abord.
Bonjour.
Il n'attend pas à ce que je lui dise bonjour. Là, il est parti, là, tout de suite.
Mais
là.
Oui, là.
Alors, quelles sont ces 30 années ces 30 ans d'existence de cette maison d'édition Image Comics dont tu vas nous parler? Fais-nous découvrir cette maison d'édition.
Exact. Disons qu'on est en 2022 et il y a plusieurs anniversaires à souligner. Plusieurs trentenaires, plusieurs 30 ans. Et Image Comics fait partie de ces trentenaires qui célèbrent cette année son 30e anniversaire d'existence, et qui est considéré aujourd'hui comme la compagnie numéro 3 de l'industrie du comic book derrière DC Comics et Marvel Comics. Elle a été mise sur pied en 1992 suite à un acte de rébellion totale.
Quels sont ceux qui se sont rébellés?
Mais je dois t'expliquer auparavant comment l'industrie fonctionne. Pour bien comprendre, faut remonter au tout début de l'âge d'or du comic book en 1938 avec ce que les historiens appellent le péché originel du monde du comic book. Quand le personnage...
C'est quoi ça, le péché originel?
Voilà.
Vas-y, je t'écoute, on t'écoute.
Quand le personnage de Superman a été créé par Jerry Siegel et Joe Shuster, les deux hommes ont cédé tous les droits sur le personnage à la compagnie Detective Comics Inc., qui est devenue plus tard DC Comics. Il croyait que Superman était pour rester un personnage mineur, que jamais il se serait douté que Superman était pour devenir une icône de la culture populaire, qu'on en ferait des dessins animés, des films, tout ça. Mm-hmm. Donc, à partir de ce moment-là, c'est devenu la norme. Ce sont les grandes maisons d'édition qui retiennent tous les droits sur les personnages et non les créateurs. Par exemple, si vous contribuez aujourd'hui à une nouvelle histoire de Batman, vous créez un nouveau personnage, un nouveau vilain, tout ça, ben, que vous soyez auteur, dessinateur ou encreur...
Il n'y a pas que des vilains là-bas, il y a des beaux gosses là-bas aussi. Oui.
Il y a des beaux personnages ici, voilà. Il y a des personnages gentils. Ouais. Mais que vous soyez n'importe qui dans en tant que créateur, ça appartient à la maison d'édition et non à vous.
Oui.
Et aussi, vous pouvez pas faire ce que vous voulez avec les personnages. Vous êtes engagé pour faire des nouvelles histoires, mais vous pouvez pas faire ce que vous voulez, car souvent, il y a un éditeur qui intervient dans ce que vous faites pour changer des choses, par exemple, si ça n'a aucun sens, si ça convient pas à un personnage ou à la continuité de l'histoire. Donc, il y a souvent de l'intervention éditoriale dans
la... raison commerciale, bien sûr.
Exactement. Mmh. On doit maintenir un certain standard. Donc, pour expliquer Image Comics, on revient dans le temps vers la fin des années 1980 avec l'arrivée de nouveaux dessinateurs qui vont littéralement révolutionner le genre. Il y en a trois qui se démarquent particulièrement. Je les nomme ici, Rob Liefeld, Jim Lee, Todd McFarlane. Et il y en a d'autres, bien sûr. Ces trois dessinateurs s'amènent chez Marvel Comics et commencent à travailler sur des publications mineures. Rapidement, on les fait graduer à des séries plus majeures. Par exemple, Jim Lee passe de la série Punisher War Journal à la série numéro 1 chez Marvel à l'époque, côté vente, The Uncanny X-Men. Ensuite, on a Todd McFarlane qui passe de Incredible Hulk à la série numéro 2 chez Marvel à l'époque, côté vente, The Amazing Spider-Man. À l'époque, les X-Men, Spider-Man, les plus gros vendeurs chez Marvel. Ces dessinateurs et bien d'autres amène un nouveau style visuel excitant, détaillé, grandiose. On fait sortir les personnages des cases. On aime utiliser la pleine page à profusion, donc un seul dessin par page, au lieu d'une succession de cases. On injecte un nouveau style plus dynamique aux costumes et aux héros. Bref, on déroge de la formule visuelle traditionnelle pour un style plus dynamique.
Désolé, on n'est pas à la télévision. Il est venu avec trois exemplaires ici, disons même quatre.
Et, j'y arrive parce que ce sont des livres importants, justement, dans l'histoire du comic book.
Mes yeux sont en train de prendre du plaisir, là, et au moment où je l'écoute en même temps.
Je vais en parler, ça ne sera pas bien bien.
Allez, je te laisse aller.
Mais ce qu'on voit, c'est que ça change complètement la structure narrative des histoires. Avant, le texte formait l'histoire. Maintenant, c'est le dessin qui façonne l'histoire. Non seulement ça, le dessin influence aussi la façon de consommer le comic book.
Oui.
On achète une publication pour ses artistes pour voir quel dessin spectaculaire on aura droit ce mois-ci. Donc, les dessinateurs sont à l'avant-scène. Et certains des dessinateurs que j'ai nommés tantôt ont contribué à la création de nombreux personnages qui deviennent populaires très rapidement et qui sont encore très populaires aujourd'hui. On pense entre autres à Venom, Cable, Deadpool. Et ça fonctionne. Les ventes explosent. Mois après mois, on s'arrache les copies, les numéros prennent de la valeur auprès des collectionneurs. Et Marvel capitalise au maximum. On ne voit plus les dessins seulement dans les comic books, mais on les voit aussi sur des posters, des t-shirts, toutes sortes de produits dérivés. C'est la première fois dans l'histoire qu'on met autant d'emphase sur les dessinateurs. Ils deviennent des méga stars.
Wow.
On fait la file pendant des heures pour avoir un autographe ou pour les faire signer une de leurs œuvres. Ils apparaissent dans des magazines, dans des émissions de télévision. Et en 1991, c'est la consécration. Marvel décide de lancer trois nouvelles séries et décide de donner carte blanche aux artistes.
En 91.
Okay. Un an avant la création de Image Comics. Donc, en 1991, est publié Spider-Man numéro 1 avec Todd McFarlane, qui se charge à la fois des dessins et de l'histoire. Et le premier numéro que j'ai ici en studio, que tu visionnes présentement, s'écoule à 2,5 millions d'exemplaires.
OK.
Pour vous donner une idée, un comic book populaire à l'époque vendait entre 100 000 et 300 000 seulement. Ou pour un comic spécial, jusqu'à 500 000 seulement. On est à 2,5 millions.
Ils ont 2,5 millions.
2,5 millions.
Wow.
C'est hallucinant.
Marvel Comics.
Oui, mais ce n'est pas tout. Ensuite, X-Force numéro 1 de Rob Liefeld vend 5 millions d'exemplaires. Et enfin, toujours en 1991, X-Men numéro 1, avec au dessin Jim Lee, vendu à plus de 8 millions d'exemplaires.
OK.
Un record de tous les temps qui tient encore à ce jour. Donc, ce sont eux qui font avancer l'industrie. Mais c'est Marvel qui en tire les profits.
Ah oui.
Et donc, ça commence à agacer certains créateurs.
Oui, partout, c'est Marvel Comics. Et,
exact. Marvel. Et comme tu peux le voir présentement, le X-Men numéro 1, je te l'ai apporté. Tu peux voir, le dessin est assez dynamique. Et tu peux même voir à l'arrière, le dessin continue là. Donc, c'est des dessins pleine page. Tu vois, c'est fait par Jim Lee, un des pionniers, une des légendes aujourd'hui du comic.
Wow.
Mais les créateurs n'ont pas leur dû et ça agace certains dessinateurs.
C'est-à-dire?
Comme, entre autres, Eric Larson et Jim Valentino, qui commencent à être frustrés par les politiques et les pratiques de travail, non seulement chez Marvel, mais également dans l'industrie du comic book.
Oui.
Parce que selon eux, les maisons d'édition ne récompensent pas suffisamment les créateurs, car ils faisaient ce qu'ils voulaient avec leur création. Et surtout avec leurs dessins. Leurs dessins, comme par exemple la couverture de Spider-Man numéro 1,
oui,
se retrouvent non seulement sur un livre, mais c'est affiché partout et c'est utilisé pour vendre la marque Marvel.
C'est ce que les éditeurs faisaient.
C'est ça, exact.
Sans l'avis des dessinateurs.
Non, parce que ça leur appartient totalement. Donc,
okay,
il y a des créateurs qui ont commencé à être frustrés.
Oui.
Donc, à la fin de 1991... Les McFarlane, Lee, Liefeld, Larson, Valentino...
Ils se sont mis ensemble.
Ainsi que Mark Silvestri et Will Portacio. Donc, je vais les appeler les sept rebelles, parce qu'ils sont sept, puis sans ça, je veux qu'on...
C'est de là que vient la rébellion.
Ouais, c'est voilà.
L'origine de la rébellion.
Ils rencontrent le président de Marvel et annoncent qu'ils quittent Marvel en même temps. Tous en même temps. Et
un tremblement de terre.
Oui, pour former une nouvelle maison d'édition. Ils font aucune demande, ils font aucune menace.
Oui.
Et quand la nouvelle a été rendue publique, l'action de Marvel a chuté de 3,25$.
Mais c'est une menace quand même. On quitte.
Oui.
Ça veut dire qu'on est mal payé, vous utilisez nos œuvres
sans
nous aviser.
C'était unilatéral. Là. C'est vraiment. Il n'y a rien qui peut nous racheter. Là. C'est vraiment. On quitte.
On vient pas dire augmente le salaire sinon on s'en va.
Voilà.
Mais on s'en va.
Oui, on s'en va complètement.
Voilà.
La perception chez le lecteur à l'époque a été mitigée. Certains ont applaudi, ils ont dit « Ah, c'est beau, vous tenez debout. » Et certains en ont vu un acte de trahison, dont moi à l'époque. J'étais jeune, fâché de perdre mes...
Mais est-ce que Marvel avait l'exclusivité, comme on dit? Ils n'ont pas le droit d'aller faire autre chose ailleurs.
Ils avaient le droit.
Ah
ouais,
bon?
C'est ça. Ben, c'est-à-dire qu'ils avaient l'exclusivité sur les créateurs, mais une fois que les créateurs ont dit... On lâche,
on ne fait plus avec vous,
on
laisse
se
débrouiller
avec nous. Ils ne peuvent plus rien faire.
Voilà.
Il n'y avait aucun recours juridique non plus.
Okay.
Donc, Image prend forme en 1992 grâce à nos sept rebelles de tantôt, en partenariat avec la maison d'édition indépendante Malibu Comics. La société...
Ça me dit quelque chose, ça. Malibu Comics, c'est vrai.
Ah oui? D'accord.
Ouais.
Je pensais que c'était plus Malibu, mais en tout cas... la société a été fondée sur les principes que chaque créateur possède son propre travail, chaque partenaire a une autonomie créative totale, donc pas d'éditeur en chef pour superviser ou pour changer des choses, et la seule propriété intellectuelle que la société contrôlerait, c'est le logo et le nom Image Comics. Aussi, chaque partenaire doit fonder son propre studio de création, complètement autonome les uns des autres. Bref, Image Comics est un amalgame de studios de création qui publient sous la même bannière. Donc, parmi les titres lancés en 1992, on retrouve Young Blood de Rob Liefeld, Savage Dragon d'Eric Larson, Wildcats de Jim Lee et Spawn de Todd McFarlane.
Oh, ça c'est beau.
Oui, tu vois, c'est l'image captivante.
Ça,
là,
c'est beau. Là,
le premier numéro.
Wow.
Et d'ailleurs, le Spawn numéro 1 que tu tiens présentement dans tes mains.
Avec Image en tête même. Image Comics.
Voilà. S'écoule à plus de 1,7 million d'exemplaires. Ce qui fait le
première édition.
Ouais, le premier numéro. Ce qui le fait le premier comic book indépendant le plus vendu de tous les temps. Et ce, encore aujourd'hui. Et ce que tu tiens dans tes mains, c'est le comic que moi-même j'ai acheté en 1992 et que j'ai fait laminer, plastifier, tout ça. Donc, c'est vraiment ma copie à moi. Là. C'est pas mais quelque chose
tu,
que je me suis
tu l'as acheté à ce prix-là?
Je l'ai acheté à ce prix-là, c'est-à-dire canadien, bien sûr. Je le vois pas.
1,95.
Oui, voilà.
OK, à l'époque.
À l'époque.
C'est pas le prix actuel, là.
Non, j'en parle pas.
Ah non, c'est mieux.
Mais c'est mieux que tu n'as pas. Je ne prendrai pas ma retraite, par exemple, si je le vends, là.
Non, non, non.
Donc, le succès de Image Comics est instantané. Déjà à la fin 1992, Image détenait 10% de parts de marché de toute l'industrie du comic book, donc en quelques mois seulement. Les premiers comics d'Image sont tous...
Parce que c'est 7 bons dessinateurs qui sont mis ensemble. Faut pas se voiler.
Mais c'est, tout est indépendant. Hein? Voilà. Tout est des histoires indépendantes.
Mais ils se faisaient produire par la même maison. Ils ont créé leur maison personnelle à eux pour concurrencer un peu Marvel.
Et ça a fonctionné. C'était déjà 10% en quelques mois, c'est beaucoup.
C'était le but, d'ailleurs.
Oui. Ouais. Encore une fois, on mise sur le côté visuel plutôt que narratif. Les comics sont un petit peu plus violents que chez Marvel ou DC, plus sanglants, mais on peut se le permettre parce qu'on se considère une société indépendante.
Oui.
À partir de 1993, Image recrute d'autres talents de Marvel et DC qui tentent leur chance. Et
ils ont pu débaucher des gens chez Marvel.
Absolument, parce que quand ils ont vu que ça fonctionnait, il y en a d'autres qui ont décidé de partir.
C'est comme si des écrivains, des auteurs se disent, bon, ben, une dizaine d'auteurs se mettent ensemble pour non, on a la marre de cette maison d'édition. On veut.
C'est ça.
On se met ensemble, on fait notre maison d'édition et on s'édite nous-mêmes.
Voilà.
Alors, les dernières minutes qui nous restent, là.
Oh mon Dieu, j'aurais tellement de choses à dire. En fait,
tu as encore trois minutes.
Je vais vous dire que les sept rebelles originaux, la plupart sont revenus chez Marvel ou DC à un moment ou à un autre pour contribuer.
Pour contribuer, mais avec beaucoup plus de reconnaissance.
Voilà. D'ailleurs, Jim Lee est le
président. Parce qu'ils l'ont déjà prouvé auparavant avec leur propre maison d'édition.
Exact.
Voilà.
D'ailleurs, Jim Lee est le président actuel de DC Comics, juste pour te dire.
Ah, OK. Il vit encore?
Ils sont tous vivants.
OK, d'accord.
Donc, et aujourd'hui, juste pour vous dire, Image Comics a complètement changé aujourd'hui. C'est-à-dire, on retrouve très peu de séries de super-héros. Tous les genres sont abordés, la science-fiction, l'horreur, la romance, le drame, l'humour. Plusieurs des séries ont été encensées par la critique. Et on met l'accent aujourd'hui plus sur les auteurs que les dessinateurs. Parce que la plupart des séries originales de Image sont terminées, à part Spawn, qui fonctionne toujours, et Savage Dragon. Il y en a seulement deux qui fonctionnent toujours.
Oui.
Les autres ne sont plus publiés aujourd'hui. Comment Image a changé l'industrie du comic book? Elle a démontré à quel point les créateurs pouvaient être puissants. Avant, ils étaient considérés comme jetables et facilement remplaçables. Mais aujourd'hui, les créateurs sont une force. Image a été pionnière dans la présentation physique du comic book en embauchant les meilleurs coloristes, également en imprimant leurs comic books sur du papier glacé de haute qualité, ce qui a rendu les livres beaucoup plus attrayants que les livres de Marvel et DC à l'époque.
En tout cas, c'est pas moi qui vais dire le contraire avec ce que j'ai ici en face de moi. Là.
Mais c'est ça qui est fascinant, c'est qu'à l'époque, dans les années 90...
Avec Spawn que j'ai en face de moi, là, vraiment, c'est beau à voir.
Ouais, c'est imprimé sur du papier de journal de qualité inférieure, donc Image a influencé beaucoup la présentation physique du comic book.
Oui. Image ils se sont démarqués un peu du style de
Marvel. Et les autres, les grandes maisons ont été obligées de suivre.
Ah.
Pour bien sûr.
Tu vois, ils ont pu imposer le style.
Et voilà. Les grands auteurs du 21e siècle ont fait leur début avec Image Comics. Les grands auteurs, on parle ici de Brian Michael Bendis, Jonathan Hickman, Matt Fraction et d'autres. Et leurs séries sont devenues également non seulement populaire auprès du comic book, mais dans d'autres médias, que ce soit à la télé, The Walking Dead, on pense entre autres à ça, en dessin animé, The Invincible, ou encore au cinéma avec Kick-Ass. Bref, les adaptations comic book vers d'autres médias ne sont plus exclusivement propriété réservée, aux comics provenant de DC ou Marvel.
Et pour terminer.
Image a changé l'approche face aux créateurs. Aujourd'hui, c'est possible. S'il y a une possibilité de mouvement pour les créateurs, c'est possible de travailler pour Marvel et de travailler en même temps sur une création originale dans une maison d'édition indépendante.
Okay.
Donc, c'est possible.
Okay.
C'est mieux vu aujourd'hui.
Ah, bon, d'accord.
Oui.
Et fait la navette des deux, quoi. Ça les produit pour les deux, mais...
Et les créateurs... J'ai pas les données là-dessus, mais les créateurs sont beaucoup mieux rémunérés. Comme par exemple...
On est en 2022 quand même.
Ouais, ben si vous regardez par exemple une production cinématographique de Marvel, les créateurs originaux et tous les créateurs qui contribuent à peu près au scénario oui. sont indiqués. Donc, c'est sûr qu'il y a une rémunération là-dedans. Là. C'est sûr qu'ils sont capables d'être mieux rémunérés. J'ai pas les détails exacts. Mais
ils vont pas prendre la retraite pauvre, ceux-là.
Non.
Là, je me fais pas de soucis.
Et en terminant, Image a contribué à une renaissance des sociétés indépendantes. Elles sont plus populaires que jamais avec des séries comme Saga, Chew, Astro City, The Boys, Something is Killing the Children. Donc, en s'imposant comme une alternative enviable aux grandes maisons d'édition, Image Comics a beaucoup fait pour améliorer le sort des créateurs dans l'ensemble de l'industrie du comics.
On dit merci à ces 7 rebelles.
Exact.
Grâce à eux.
Exact.
Mais Marvel reste quand même...
Oui, Marvel est quand même numéro 1. Et comme j'ai dit, j'étais frustré au début parce que je perdais mes artistes favoris.
Il a acheté à Edula.
Mais aujourd'hui, 95, je les comprends.
Edula 95 à l'époque. Ben, c'était tout jeune. Merci beaucoup, Christian Lagasse.
Ça fait plaisir.
On se retrouve
la semaine prochaine.
La semaine prochaine avec d'autres découvertes.
Oui, absolument.
Allez, bon long week-end à toi.
Bon week-end.
Merci.
Gabriel, un véritable rayon de soleil. Et partout où elle passe, l'herbe jaillit. C'est la floraison, l'été toujours en saison. Dès que mes yeux l'ont retrouvée, mon cœur s'est inondé de prose. Elle est le vent doux qui est passé par la vitrine de mon âme, y dépose un bouquet de fleurs, l'aurore en pleine couleur. Elle chante toujours dans ma tête, elle danse toujours dans mon cœur, dans ma tête, dans mon cœur, dans ma tête. Ballerine sans comparable, sur la scène elle est immanquable. Elle danse toujours dans ma tête, elle chante toujours dans mon cœur. Son sourire, un ciel bleu. Si le jour se fait morne, elle le ranime d'arc-en-ciel et d'esquisse de licorne. L'amour dépasse mes bornes. Ses yeux, cette scie, des siècles de sagesse, et deux verses, une chute de tendresse. Alors que ma tête est insensée, elle le décore de pétales de rose, des milliers de jardins éclos. Elle chante toujours dans ma tête, elle danse toujours dans mon cœur, dans ma tête, dans mon cœur, dans ma tête. Ballerine sans comparable, sur la scène elle est immanquable. Elle danse toujours dans ma tête, elle chante toujours dans mon cœur. J'avais un creux dans la poitrine, il était vide de chansons. Ce printemps-là, il s'est comblé, je n'ai plus jamais m'inquiéter. Tant que pas le cœur de Gabriel. Elle danse toujours dans ma tête, elle chante toujours dans mon cœur, dans ma tête, dans mon cœur, dans ma tête. Ballerine sans comparable, sur la scène, elle est immanquable.
Elle danse toujours dans ma tête,
elle chante toujours dans mon cœur.
Toujours dans ma tête, toujours dans mon cœur. Toujours dans ma tête, toujours dans mon cœur.
Didier Sabourin, Gabriel, voilà. Je vais parler rapidement de l'artiste montréalais d'origine béninoise qui vient de sortir son premier album. Elle avait sorti d'ailleurs, et c'est son, je dis bien son premier album, elle avait sorti son premier EP en 2018 au Lassi, c'est Karine au micro, voilà. Elle a fait un spectacle le 23 septembre, voilà, et pour lancer son single Mudonko, voilà. Et puis bon, ben l'album est sorti aujourd'hui, le single on l'avait déjà depuis le 23 septembre au sujet d'un événement, et puis là aujourd'hui le 7 octobre voilà, c'est la sortie de cet album d'Otto Nassé. Voilà, on dit merci au Conseil des Arts du Canada et du Conseil des Arts de Montréal qui lui ont permis de réaliser de mettre sur pied cet album d'ailleurs. Je viens de finir d'écouter tous les titres de l'album. On va, à partir de la semaine prochaine, de temps en temps, si j'ai pas beaucoup trop d'invités ou participants là pour que je puisse glisser une de ces pièces musicales après une chronique, après un invité. Alors, c'est du bonbon. Voilà, c'est bon, c'est bien. Et puis, voilà. Et bravo à Karine et au plaisir de te recevoir ici pour nous parler de ce premier album. C'est son premier album. Et puis, qu'est-ce qui se passe demain? Demain, 8 octobre, c'est à la Petite Marche. C'est sur Saint-Denis, hein, voilà. C'est au 5035 Saint-Denis, il y a Nord-Sud, troisième édition. Nord-Sud, troisième édition, l'édition 2022. C'est souper spectacle, avec en tête, entouré, Momo Soro, entouré de combien d'artistes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, de différents horizons. Voilà. Burkina Faso, Québec, Sud-Afrique, quoi encore là, Ghana, Claudia, québécoise aussi, Virginie, Ouria qui va danser. Et puis, je dis bien, à la Petite Marche, hein, ouais, c'est un restaurant, il y a une partie où le groupe, il y a une scène où le groupe peut se mettre, et c'est la musique au repas, et vous pouvez, aller téléphoner si vous voulez avoir les billets, ou bien faire des réservations, vous appelez au 514-458-1328 pour faire ces réservations, ou vous pouvez aller simplement aussi. Vous n'avez pas envie de manger là, vous pouvez aller juste pour le spectacle Showtime. Le spectacle commence à 21h. Pour ceux qui veulent manger, allez-y un peu plus tôt. Parce que c'est pas au moment du spectacle que vous allez commencer à remuer les assiettes avec vos cuillères, vos fourchettes. Mieux vaut aller un peu plus tôt pour garder le calme et se mettre à l'aise quand les musiciens vont se retrouver sur scène. Il y a Mujou, il y a Madjou, il y a Brian, il y a Claudia, il y a Ouria, Virginie, Momo serait à la tête, lui, la batterie tout le temps, il chante aussi, et c'est lui qui va accompagner tous ces artistes-là qui font partie de Nord-Sud, cette troisième édition. Je me rappelle bien de la première édition qui avait eu lieu au Théâtre Plaza sur Saint-Hubert. Voilà. Et cette fois-ci, il veut faire un spécial souper-spectacle, c'est ce qui fait qu'il se retrouve là-bas, à la Petite Marche, qui est bien placée aussi, c'est non loin du métro Laurier, hein. On n'a pas besoin de dire « Ah, comment je vais me rendre là-bas » C'est juste à côté, au coin de Laurier et Saint-Denis, 5035 Saint-Denis. Voilà. Je ne sais pas si j'ai encore un petit moment pour revenir, pour revenir sur tout ce que les gens viennent de nous donner comme information. Concernant d'abord cette 12e édition de Muse 2022, je dis merci beaucoup à l'invité qu'on a eu, Aïda Kamar, qui est la présidente, directrice générale et cofondatrice de Vision Diversité, qui produit d'ailleurs Muse, qui est à la 12e édition. N'hésitez pas, profitez-en. Et je dis merci à Olivier Perret, qui est venu nous parler de cette deuxième édition de C'est moi le chef. Ouais, les enfants qui vont apprendre à préparer. C'est la deuxième édition. Karine aussi, la responsable aussi, grâce. Elle dit que c'est grâce à Olivier qu'elle a pu mettre ce projet sur pied. On lui dit bravo, merci Karine, qui est à la tête de ça. J'espère qu'elle aura le temps de venir nous voir ici pour parler de ce projet. Elle donne des ateliers aussi dans les bibliothèques, dans les écoles, dans les parcs en été quand il fait beau. Quel beau projet pour les enfants qui sont curieux, qui veulent apprendre à faire de la cuisine. Pourquoi pas? Lancez-vous là-dedans et puis voilà, c'est les parents, inscrivez vos enfants et puis ça se passe virtuellement, 100% virtuel. Donc il n'y a pas de problème par là. Hein? Maurice, merci à toi. Belle fin de semaine, belle longue fin de semaine. On ne pourra même pas se voir le lundi, on se voit le vendredi. Voilà, c'est ça. Et puis prenez soin de vous. Et puis, quel que soit ce qu'on vit sur cette terre, n'hésitez pas, il faut savoir mordre dans le... dans le fruit doré de la vie ou bien du monde, c'est-à-dire voilà, profiter des petits instants de plaisir qu'on a. Voilà, et puis c'est tout. Je vous remercie pour votre fidélité. Pour ceux qui veulent continuer à écouter d'autres émissions, après moi aussi, il y a d'autres émissions qui sont rediffusées ou bien de la musique. Restez sur les ondes de Canal M. Prenez soin de vos minutes et puis on se retrouve la semaine prochaine. À partir de mardi, bien sûr, pas lundi. Allez, je vous dis merci à Catherine Bouderon pour toutes les recherches de la semaine. La recherchiste de l'émission Escale 16-17. Voilà, merci. Et à mardi prochain. Je vous dis ciao.